Certains d'entre vous le savent peut-être, j'aime bien le cyclisme. Et puis, je ne sais pas si vous savez le nombre idéal de vélos pour un cycliste. Le nombre idéal de vélos pour un cycliste, c'est toujours, toujours, toujours N plus 1. N plus 1 parce qu'il y a toujours un vélo qui est vraiment trop bien, qu'on aimerait avoir. Parce que celui-ci, on pourrait l'utiliser pour telle discipline, parce que celui-ci, il est rouge, puis l'autre, il est bleu, puis faut que ça matche avec mes habits de cycliste et tout ça, enfin voilà. N plus 1, le nombre idéal de vélos pour un cycliste, c'est un sujet un petit peu sensible dans notre famille, dans notre couple par exemple. Non, ça va. Ou bien, en termes de finances, c'est un peu pareil, finalement. Hein. On dit que les gens ne sont jamais vraiment satisfaits de chez satisfaits. Tu peux demander à des personnes de différents statuts sociaux, de différentes aisances financières, combien d'argent ce serait idéal pour toi d'avoir ? La réponse, c'est toujours juste un petit peu plus. Juste un peu plus, et puis là, je serais bien, et puis... Je pourrais être à l'aise dans ma vie, je pourrais faire les projets que j'ai à cœur de faire, je pourrais bénir l'Église juste un petit peu plus, puis ça serait mieux, quoi. Humilité, sobriété et vigilance. Voilà le titre de mon message ce matin. Deux sources, en fait, d'inspiration qui m'ont accompagné cette semaine pour préparer ce message, enfin, qui m'ont conduit à choisir ce texte de 1 Pierre 5, 5 à 11, c'est le temps de prière qu'on a eu lundi soir à Prions Ensemble, suite à la dernière prédication de Florian qui a parlé de prendre sa croix, de mourir à soi. On a pris un temps de prière pour réfléchir, mais c'est quoi qui nous empêche encore de franchir ce pas, de mourir à soi? C'est quoi qu'il y a comme blocage encore aujourd'hui dans nos vies, dans l'Église, pour qui empêche le règne de Dieu dans notre vie. Et puis on a pris un temps de prière et d'écoute pour discerner ce qui retient le règne de Dieu dans nos vies, dans notre Église. Et il y a plein de choses qui sont ressorties de ce temps d'écoute qui m'ont encouragé et qui ont alimenté ma prière, ma réflexion pour ce message de ce matin. Et puis l'autre raison, c'est que c'est le texte d'aujourd'hui du plan de lecture. Alors, si vous êtes en retard comme moi dans le plan de lecture, vous n'avez pas encore lu ce texte, mais vous avez l'occasion de faire un petit peu d'avance. Il faudra rattraper après aussi. On est dans la première lettre de Pierre. Première lettre de Pierre aux disciples de Christ, des judéo-chrétiens, des pagano-chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens d'origine juive ou bien des chrétiens d'origine païenne ou bien des nations. Certainement un peu des deux. Cette lettre, elle est adressée à ces chrétiens qui sont dispersés, ceux que Dieu a choisis. Voilà comment il s'adresse à eux dans son introduction. C'est une lettre qui parle beaucoup de souffrance, du témoignage malgré la souffrance, de l'amour mutuel, de la soumission, du respect. En fait, c'est une lettre que Pierre a écrite pour encourager des chrétiens qui sont en difficulté, des chrétiens qui sont dans de la souffrance à cause de leur foi. Et puis là, on arrive à la toute fin du livre, le texte qu'on va lire ce matin. Pierre vient de faire des recommandations aux responsables de l'Église, et puis il leur dit de bien prendre soin du troupeau qui leur est confié. Les responsables de l'Église, prenez bien soin du troupeau qui vous est confié. Faites-le par dévouement et puis pas par contrainte. Faites-le pas pour l'argent, mais parce que faites-le d'un cœur plein. Faites-le pas avec un pouvoir autoritaire, mais en étant des modèles. Tout ça à l'image du berger, du grand berger en chef. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle ce matin? Ça, c'est une question un petit peu ambivalente à poser quand même. Werner, je t'ai vu! C'est bien, c'est bien. Il y a des jeunes dans la salle ce matin. Ce texte s'adresse à vous. Est-ce qu'il y a des gens qui se sentent jeunes? On l'a vu, il y en a en tout cas. Ce texte s'adresse à vous. Et puis finalement, s'il y a des disciples du Christ dans la salle ici, ce texte nous concerne toutes et tous. Alors on va lire 1 Pierre 5, 5 à 11. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment fixé par lui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Vous de même, jeunes gens. Comme dit, avant ça, Pierre s'adressait aux anciens, aux responsables de l'Église, et puis là, il s'adresse au corps de l'Église, plus particulièrement les jeunes. Littéralement, c'est les nouveaux. Par exemple, quand il y a des textes qui parlent, ces textes qui parlent du vin nouveau, eh bien, c'est ce mot-là qui est utilisé, les nouveaux. Les jeunes dans la foi, le troupeau, le corps de l'Église. Alors, ça ne veut pas dire que s'il y a des anciens, des diacres, des membres du conseil, des pasteurs qui sont ici dans la salle, que ce texte ne nous concerne pas. Ils n'ont pas besoin d'écouter. Si, si, ils ont besoin d'écouter. Mais le public cible, ici, dans ces paroles-là, c'est bien le corps de l'Église. Et puis ce corps de l'Église, il est appelé à se soumettre aux responsables. Alors ça, ce n'est pas vraiment un thème qui est facile à aborder pour moi en tant que pasteur devant vous. Et puis de vous dire, voilà, vous êtes appelés à vous soumettre à vos responsables d'église. Enfin, je ne suis pas très à l'aise de dire ça, comme ça, et puis de vous expliquer comment ça se passe. Du coup, je me dis, pourquoi pas vous donner à vous la parole. Pourquoi pas vous donner à vous la parole et vous demander, ben finalement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Une définition, un exemple concret? Soumettez-vous aux responsables de l'Église. Est-ce que quelqu'un souhaiterait dire qu'est-ce que ça signifie pour vous, m'aider dans ma prédication ce matin? Werner, il est au taquet ce matin.
Eh bien, pour moi, c'est lorsque nous recevons tes informations ou les informations de Judith, on commence à prier pour le culte de dimanche et nous pensons que là, nous apportons un soutien aux responsables de l'Église et à toute l'organisation, que ce soit la musique, que ce soit la stéréo, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Ben voilà un petit détail.
Merci beaucoup, Werner. Quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter sur cette thématique de la soumission aux responsables de l'Église? Un exemple concret, une définition? Ah, Daniel, je cours.
Alors pour moi, le pasteur ou les pasteurs, ce sont les capitaines du bateau. C'est eux qui dirigent le bateau et à nous de ramer ou de mettre la voile ou de faire ce qu'ils nous disent de faire, mais il faut quand même que quelqu'un dirige.
Merci bien.
j'aurais tendance à vouloir comparer les responsables d'église finalement à comme des parents pour leurs enfants ou comme Dieu pour les parents, où on sait que finalement ils font tout pour le bien. Vous êtes aussi soumis à Dieu, et voilà.
Merci beaucoup. C'est encore possible d'ajouter quelque chose, si vous voulez. Merci Gladys. J'arrive.
Merci, moi je pense que j'arrive à me soumettre, pas toujours, mais si je lis les versets précédents qui sont adressés aux anciens et qui dirigent avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau, je pense que c'est, pour moi c'est plus facile, mais quand il y a de l'autorité ou des choses comme ça, je pense aussi qu'il y a des limites à la soumission.
Je profite que le micro est à côté pour dire, pour moi, c'est peut-être que quand on ne sait pas trop que faire, demander conseil aussi aux responsables, et puis peut-être écouter leurs conseils, plus ou moins. Et ce que je veux aussi dire, c'est que moi, j'ai pas mal voyagé quand même dans ma vie, j'ai fait partie de plusieurs églises, et puis il y a des différences culturelles dans les églises. Par exemple, en Afrique, je mettais toujours quelque chose sur la tête parce que ça correspondait aux Africains. C'est aussi une manière de se soumettre aux responsables de l'église. Mmh.
Merci beaucoup. On a quelques pistes pour comprendre cette notion de la soumission aux responsables de l'Église. Merci d'avoir participé, merci de m'avoir aidé. Dans tout ça, ce qui me semble important, eh bien, c'est que l'autorité, c'est pas l'autoritarisme. C'est que la soumission, c'est pas la servilité qui s'écrase, qui nie sa valeur. Comme l'a dit Gladys, quelques versets plus haut, l'autorité, elle est bien, bien décrite. C'est une autorité à l'image du roi serviteur. Le berger qui prend soin, qui se dévoue, qui se rend modèle. Alors dans ça, pour nous, les responsables de l'Église, on a aussi besoin de vous, on a besoin de vos feedbacks, volontiers, si vous nous encouragez, si vous nous reprenez, si vous nous donnez des idées, des pistes, ça nous rend service, ça nous aide. Puis la soumission qui n'est pas servilité, qui s'écrase, qui nie sa valeur, non. La soumission, tout comme l'autorité, c'est surtout en fait une qualité qui doit être marquée par l'humilité. Par l'humilité. Et puis c'est là, je crois, la clé de toute cette section qui parle de soumission, d'autorité, d'humilité. Déjà là, Pierre, il s'adresse à tous. Et plus juste aux jeunes tout particulièrement, il dit « Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. » Vous tous. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Avec cette citation qui vient du livre des Proverbes. Vous tous, ça comprend quand même beaucoup de personnes en fait. Hein. Ça comprend les jeunes, les vieux qui se sentent jeunes, les responsables, les nouveaux convertis, les nouveaux arrivants, les enfants. Soyons humbles les uns envers les autres. Soyons humbles dans nos rapports les uns avec les autres. Parce que le contraire de l'humilité, l'orgueil, c'est de chercher à s'en sortir par soi-même. Face à Dieu, face à nos frères et sœurs, l'orgueil, c'est fermer les oreilles et ne pas se rendre enseignable. Est-ce que ce matin, tu es venu dans une disposition où tu es enseignable? Ou bien est-ce que comme Ondine, tu choisis, non, je veux faire tout seul ce matin, je veux faire tout seul. Ce qui me frappe avec la notion de l'humilité, c'est que c'est jamais quelque chose qui est acquis. On ne peut pas dire l'humilité, c'est bon, j'y suis arrivé, je suis dans un état d'humilité. Je crois que l'humilité, c'est plus une décision à reprendre sans cesse. Un choix à faire dans la dépendance totale de la puissante main de Dieu. Une dépendance totale, parce qu'elle nous conduit ou elle nous conduira à un moment ou à un autre dans une sorte, une forme de dépouillement. En étant conséquent avec la notion d'humilité, je vais devoir me dépouiller, je vais devoir renoncer à moi-même. J'ai des certitudes que j'ai en moi, que je devrais peut-être balayer. J'ai mes propres forces, mes ressources intérieures, qu'il faudra peut-être que je relativise. Dans l'humilité, je suis appelé à me donner à Dieu pleinement, me donner aussi à mon prochain. Je vous l'ai dit la semaine passée, il était question de prendre sa croix. Prendre sa croix. Porter quelque chose, porter un fardeau. Mais si on est trop chargé, une croix c'est lourd. Si on est trop chargé d'autre chose, on ne va pas réussir à la prendre. Il faut parfois se décharger. On a besoin de se décharger. Et Dieu fait cette offre magnifique que Pierre rappelle, où il dit « Déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » L'humilité, c'est aussi une qualité qui doit ressortir pour faire confiance. Confiance à Dieu, confiance à notre prochain. Et on peut se décharger sur le Seigneur. Apprendre à lâcher prise, à se décharger dans l'humilité, parce qu'il prend soin de nous. Et ça, c'est une magnifique assurance. Ce matin, j'ai à cœur de nous inviter à examiner nos cœurs, alors. Où est-ce que j'en suis, moi-même, avec cette notion d'humilité ? Face à Dieu, face à mes frères et sœurs, face à notre conjoint, face à notre prochain. Est-ce que mon état d'esprit, mes choix de chaque jour sont caractérisés par l'humilité. La parole de Dieu nous y invite assurément. Faites preuve de modération et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Dans mon trajet entre la maison et ici, mon lieu de travail, je dois traverser une forêt. Parfois, je fais ces trajets à vélo, parfois je fais ces trajets en voiture. Et je remarque que mon état de vigilance, il est très différent si je roule de nuit à vélo ou si je roule en plein jour en voiture. De nuit en vélo, j'ai des fois l'impression qu'il y a quelque chose derrière moi, qu'il y a une bestiole qui rôde. Il paraît qu'il y a le loup qui est dans la région, des choses comme ça. Puis souvent, je scanne, ça m'arrive même de me retourner, de regarder derrière moi. Véridique. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'y réfléchis objectivement, ou bien quand je suis hors de cette situation, c'est certainement le type de trajet qui est le plus sûr pour moi, où je suis le plus en sécurité. Avec mes lumières, je suis bien visible. La vitesse à laquelle je roule, elle est bien plus basse que si j'étais en voiture. De nuit, en général, il y a très peu de circulation. Et puis, mon état de vigilance, il est accru. Alors que de jour en voiture, rien ne peut m'arriver. Je suis dans ma grosse machine, ma boîte de métal sur roue, là, et rien ne peut m'arriver. Je suis en sécurité. Souvent, il m'arrive de manquer d'attention. Je suis facilement distrait. En tout cas, là, c'est clair qu'il n'y a aucune chance que le loup il me rattrape. Et pourtant, c'est souvent dans les trajets en voiture qu'on prend le plus de risques. Il y a plus de circulation de jour. Je roule bien plus vite. Parfois sur la route, la journée, il y a des marcheurs qui sont là, il y a des cyclistes justement. Il faut faire attention, il y a plein de paramètres, plein de messages qui nous viennent en même temps. En fait, il y a comme quelque chose qui endort mes sens parce que j'ai cette impression de sécurité. Eh bien, c'est une mise en garde de cet ordre-là qui ressort des paroles de Pierre. Et il y a un danger. Il y a un adversaire qui est le diable. Un lion qui rôde, qui cherche à nous dévorer, qui cherche à nous détruire. Il cherche à détruire ta vie, ta famille, tes relations, notre communauté. Et il a des façons de le faire qui sont très flagrantes, hein. Des choses très visibles. Par exemple, en tant que disciple auquel on n'a pas envie de toucher, des choses qui s'opposent clairement à Dieu, par exemple des pratiques occultes ou des choses comme ça. Mais il y a des façons aussi qui sont bien sournoises, très sournoises. Rien que pour prendre l'exemple des relations, les non-dits. Bien interpréter des paroles que quelqu'un nous a dit comme une attaque. L'impression que les autres, finalement, ils sont un peu contre nous. Qu'ils nous considèrent moins que les autres, etc. C'est juste des exemples, des pensées qui s'insinuent en nous et qui viennent pourrir les relations. Mais face à cette menace-là, Dieu nous donne des armes qui sont efficaces. Non seulement il nous donne la connaissance que nous ne sommes pas seuls, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Alors là, les souffrances dont il est question, c'est des souffrances liées à la persécution. Mais ce passage dit aussi quelque chose de la solidarité des frères et sœurs dans la foi comme une ressource magnifique dans notre résistance, dans notre éveil face à la présence de ce lion. Et surtout, Pierre nous parle de sobriété et de vigilance. De sobriété et de vigilance. Dans ce temps de prière de lundi soir, on a cherché à écouter ce que Dieu voulait nous dire sur ces choses qui nous empêchent de mourir à soi. Et plusieurs choses ont bien correspondu à ce que ce passage dit sur la modération, la sobriété, la vigilance. Ce sont des armes qui sont tellement précieuses dans notre lutte face à notre adversaire. Aujourd'hui, par exemple, le silence, la disponibilité, notre focus, ils font si vite place à la distraction. L'ordre de nos priorités, il se mélange de plus en plus parce que ce qui devrait être superflu risque de prendre de plus en plus la place d'une idole dans notre vie. Quand on élève le confort au rang de bien ultime, on est comme désensibilisé au point qu'il n'y a plus grand-chose qui nous touche, plus grand-chose qui nous brise le cœur ou bien qui nous donne un fardeau que Dieu voudrait nous donner. Est-ce que finalement, on aime trop notre vie, on aime trop notre confort, on aime trop notre routine ? C'est un peu comme un sachet de thé qu'on pose dans un verre, puis on aimerait se boire un bon thé, puis on verse l'eau chaude, puis immédiatement on la verse à côté. Puis on remplit le verre, puis immédiatement on le verse à côté. Et on fait ça, et on fait ça. Et en fait, le thé, il n'a pas le temps d'infuser. Les choses, elles n'ont pas le temps de prendre corps, parce qu'on vide, on remplit sans arrêt, on vide, on remplit, on vide, on remplit. J'aimerais nous mettre en garde aussi, on a vite fait de voir ce genre de choses chez les autres en fait. C'est vrai que les jeunes et leurs téléphones portables aujourd'hui, aïe aïe aïe. N'oublions pas de regarder à nous-mêmes. C'est où que moi je suis appelé à grandir en sobriété, en vigilance. Tout excès conduit à la fatigue et au sommeil. Tout excès conduit à la fatigue et au sommeil. Dans son discours sur le mont des Oliviers, où Jésus parle des signes de la faim, il met ses disciples en garde pour qu'ils restent vigilants, justement. Et voici ce qu'il leur dit. « Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible, au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. » Aïe, aïe, aïe. Au milieu des excès du manger, du boire, des soucis de la vie. Ça, on connaît. ne devenons pas insensibles, mais restons vigilants. Restons sobres et vigilants. Et pour ça, on a besoin de l'humilité. Pour ça, on a besoin d'être rempli de discernement. Pour ça, on a besoin de vivre la prière jointe à l'écoute de la parole. Pour ça, on a besoin les uns des autres. On a besoin de rester dans la dépendance du berger, mais aussi faire pleinement partie de son troupeau, d'être en lien les uns avec les autres. Finalement, ce que nos excès de consommation, de sécurité, de distraction, de confort traduisent, c'est une crainte de perdre quelque chose de bien plus essentiel. Ça traduit cette perte de craindre, cette crainte de perdre notre propre vie. Et Pierre nous encourage à ne pas craindre la mort. Ne pas craindre la mort. Certains ont nommé Satan comme le prédicateur le plus actif qu'on puisse trouver. Très très actif, on dirait. En tout cas, il semble qu'il sait fort bien par quelles armes il devrait nous affaiblir. Le découragement, la crainte, le doute. Et puis il nous fait voir la réalité sous son angle le plus noir possible, le plus sombre, le plus négatif. Il s'emploie à nous angoisser, à nous tourmenter, et justement, jusqu'à brandir la mort comme la menace ultime, ou alors parfois comme une heureuse solution aussi. En fait, surtout, ce qui s'attelle à faire, c'est de nous montrer la croix, ou bien le chemin qui conduit à la croix, comme un des pires des aboutissements, quelque chose de vraiment indésirable. Mais en Jésus-Christ, la logique, elle est complètement différente, elle est complètement retournée. Celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Parole de Jésus dans Matthieu 16. Celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Avec Jésus, la mort, elle perd son pouvoir pour laisser place à la vie. L'espérance de la vie éternelle qui commence à marquer nos décisions, nos choix, nos façons de penser. Oui, nos corps, ils souffrent, ils s'affaiblissent, ils meurent. Mais la résurrection de notre Seigneur qu'on vient de fêter, elle nous rappelle qu'il a vaincu la mort. Elle nous rappelle que nous aussi, on connaîtra cette espérance, cette gloire de la résurrection. Alors soyons vigilants, soyons sobres pour regarder à Jésus, regarder à Jésus-Christ qui est la vraie sécurité, la vraie source de la vie en abondance, la source de la vie éternelle. Qu'est-ce qui me distrait ? Qu'est-ce que je serais appelé à lâcher ? Comment est-ce que je peux grandir en vigilance, en écoute de ce que Dieu me dit, de ses mises en garde ? Comment on peut le faire en tant qu'Église ? Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Oui, une vie dans l'union avec Jésus-Christ, elle apporte aussi son lot de souffrances. Et la mort à soi, c'est pas le chemin de la facilité, c'est clair. Mais j'aime bien, en fait, comme Pierre y choisit de remettre les choses en perspective. Un peu de temps. Les souffrances pour un peu de temps. C'est oser dire des paroles comme celle-ci à des chrétiens qui souffrent depuis des années, qui souffrent depuis des dizaines d'années, qui ont connu que la difficulté depuis leur marche avec Jésus-Christ à cause de la persécution qu'ils connaissent. Personnellement, j'oserais pas. Je me sentirais prétentieux. Mais en fait, ces paroles, elles sont tellement nécessaires. Elles sont tellement importantes. Où Pierre, il est en train de remettre les choses en perspective. La souffrance, ce sera toujours quelque chose qui a une fin. Il y aura un temps T où la souffrance, elle ne sera plus là. La souffrance, c'est quelque chose qui reste temporaire. Et lorsque la souffrance, elle est vue dans la perspective de la gloire éternelle de l'union à Jésus-Christ, eh bien, elle prend sa juste valeur, elle prend sa juste importance. Il y a tellement, tellement, tellement plus qui nous est promis. Il y a tellement mieux que tout ça. La gloire éternelle de la présence de Dieu. L'espérance de la vie en abondance, de la vie de résurrection avec Jésus-Christ. Et c'est ça aussi que je trouve qui est fascinant. Avec une vie d'humilité, parfois une vie de souffrance avec Dieu, c'est que l'humilité, en même temps, elle apporte beaucoup de certitude. L'humilité, elle apporte une assurance qui est inébranlable. Pierre, il utilise 4 verbes au futur qui sont une promesse magnifique pour ceux qui s'humilient devant Dieu. Un peu contre-intuitif, en fait, avec la notion d'humilité. Mais ô combien c'est bienfaisant quand on est dans la présence de Dieu et dans une attitude d'humilité face à lui et qu'on vit ces choses. Dieu nous promet qu'il nous rétablira lui-même, qu'il nous perfectionnera. Dieu promet qu'il vous affermira. Dieu promet qu'il vous fortifiera. Dieu promet qu'il vous rendra inébranlable. Humble et inébranlable. On a besoin de se raccrocher à Dieu dans nos tempêtes, dans nos conflits, dans nos souffrances, dans nos déserts. On a besoin de se raccrocher à Dieu dans nos blocages, dans nos luttes, dans nos addictions. Dieu nous appelle à une vigilance, une sobriété, une humilité qui est ancrée dans sa toute-puissance, qui est ancrée dans sa souveraineté, dans sa bonté infinie, dans l'assurance qu'il tient toutes choses entre ses mains. Parce que Dieu te rétablit, Dieu t'affermit, Dieu te fortifie, Dieu te rend inébranlable. C'est une promesse. Ne cherchons pas ces choses ailleurs. Osons dire non au toujours plus, toujours mieux. Osons le choix de la sobriété. Osons démasquer les idoles qu'il y a dans nos vies. Ce que le diable, ce lion rugissant, il veut ériger au statut de Dieu dans nos vies. De manière très sournoise. Soyons vigilants. Et humilions-nous devant Dieu, devant les uns les autres. Reconnaissons ce besoin d'être soutenus, d'être aidés, d'être épaulés, d'être portés, d'être conduits. Lundi, alors qu'on priait, on a reçu aussi cette image. C'est comme si des personnes étaient dans une prison. Dans une prison, pas de liberté. Mais qu'en fait, la personne à l'intérieur de la prison, elle est coincée, elle veut sortir, et elle a la clé. Elle a la clé de la porte. Elle a tout en main pour pouvoir sortir, mais il manque quelque chose pour franchir ce pas. Je crois qu'il y a des choses à découvrir dans ces notions d'humilité, de sobriété, de vigilance, qui sont de l'ordre d'une clé qui nous permettra de sortir vers la vraie liberté. Je vous invite à un temps de silence pour nous laisser interpeller par Dieu, et puis l'équipe de louanges, vous pouvez gentiment venir. Seigneur, si souvent nous sommes enfermés, si souvent nous sommes prisonniers et on ne réalise pas ce que tu nous donnes. toute ta bonté, toutes les ressources qu'il y a en toi. Seigneur, on ne réalise pas que tu es là et que tu nous donnes cette clé. Seigneur, je te prie que ce matin, tu nous ouvres les yeux pour voir là où nous sommes réellement, pour voir là où toi, tu es et comment tu nous accompagnes. Seigneur, je te prie que nous soyons humbles devant toi, que nous nous laissions conduire, utiliser par toi, et que nous puissions trouver en toi toute notre satisfaction, Seigneur. Ce qui est de l'ordre de l'idole, de l'idolâtrie, ben Seigneur, nous voulons le déposer. Et nous voulons nous en détourner pour regarder à toi. Et trouver tout ce dont nous avons besoin dans ta présence, dans ton amour. Seigneur, tu nous invites à nous décharger sur toi. Et à trouver en toi la vie en abondance. Eh bien Seigneur, nous voulons répondre à cet appel. Viens au milieu de nous, Seigneur. Amen.